Un prof de psycho à la fac, c'était à l'université du Maine, une vraie fac où j'ai décroché une vraie licence, nous a affirmé un jour que les humains possèdent effectivement un sixième sens. Il l'a appelé notre signal d'alarme et nous a dit qu'il était plus développé chez les mystiques et les hors-la-loi. Je n'étais pas un mystique, mais un hors-la-loi certainement, étant à la fois un exilé de mon époque et un assassin. Je pouvais considérer le meurtre de Frank Dunning comme justifié, mais la police risquait de ne pas être du même avis. Le conseil que je vous donne si vous vous trouvez dans une situation de danger imminent, nous a dit notre prof ce jour de 1995, c'est d'écouter votre signal d'alarme. C'est exactement ce que j'ai décidé de faire en juillet 1960. Eduardo Gutiérrez me mettait de plus en plus mal à l'aise. C'était un petit type, mais je ne devais pas oublier ses supposées relations avec la mafia. Et la froide lueur dans ses yeux quand il m'avait réglé mon gain du derby, que je trouvais maintenant particulièrement insensé. Pourquoi avais-je cédé à cette tentation alors que j'étais loin d'être sans le sou? Ce n'était pas de la cupidité. Ça ressemblait plus à ce que doit ressentir un bon batteur quand le lanceur lui envoie une balle courbe traîtresse. Dans certains cas, il ne peut pas s'empêcher de la frapper pour l'expédier vers les limites du terrain. Ben, moi aussi, je la frappa. Comme Léon Durocher et le Bec, c'était son surnom, avait coutume de dire dans ses pittoresques émissions de radio. Mais voilà que je le regrettais. J'avais fait exprès de perdre les deux derniers paris que j'avais placés chez Gutiérrez, en faisant de mon mieux pour passer pour un idiot, un flambeur minable qui avait eu de la chance une fois et allait maintenant tout reperdre. Mais mon signal d'alarme m'a averti que la comédie n'était pas très bien passée. Et mon signal d'alarme n'a pas aimé quand Gutiérrez a commencé à m'accueillir d'un « Tiens, tiens, voilà mon Yankee de Yankeeland !» Pas le Yankee, mais mon Yankee. Imaginons qu'il ait chargé un de ses amis joueurs de poker de me suivre de Tampa à Sunset Point. Et n'était-il pas envisageable qu'il puisse envoyer d'autres de ses amis joueurs de poker ou de Malabar quelconque pressés de se libérer du taux usuraire sous le joug duquel les tenait Gutiérrez, se livrer à une opération de récupération d'au moins une partie de ses 10 000 dollars? Mon cerveau gauche pensait que c'était le genre de stratagème éculé qu'affectionnaient les séries télévisées policières du genre de 77 Sunset Strip. Mais le signal d'alarme faisait entendre un son de cloche différent. Mon signal d'alarme me disait que le petit homme à la calvitie précoce était parfaitement capable de donner son feu vert à un débarquement musclé à mon domicile, avec ordre au gros bras de me mettre une volée de bois vert si je tentais d'opposer la moindre résistance. Je ne tenais pas à recevoir une volée, et je ne tenais pas à être volé. Par-dessus tout, je ne tenais pas à ce que mes manuscrits tombent entre les mains d'un bookmaker lié à la pègre. Je n'aimais pas l'idée de détaler la queue entre les jambes, mais... Merde, il faudrait bien que je descende dans le Texas tôt ou tard, non? Mieux valait trop tôt que trop tard. De surcroît, la discrétion est le meilleur allié du courage. Je l'ai appris au sein de ma mère. Donc, après une nuit de juillet quasiment blanche où les bips de sonar de mon signal d'alarme avaient résonné particulièrement fort, j'ai rassemblé mes biens terrestres, j'ai caché le coffre-fort contenant mon récit biographique et mon argent liquide sous la roue de secours de la Sunliner, laissé un mot et un dernier chèque de loyer pour mon propriétaire et pris vers le nord par l'US 19. J'ai passé ma première nuit dans un hôtel de Funyac Springs, en état de délabrement avancé. Les stores étaient troués, et le temps que j'éteigne l'unique lumière de ma chambre, une ampoule nue pendant au bout d'un fil électrique, j'étais assaillé par des moustiques de la taille d'avion de combat. Pourtant, j'ai dormi comme un bébé, sans le moindre cauchemar, et les bip-bip de mon radar intérieur s'étaient tus. Cela me suffisait. Le 1er août, j'étais à Gulfport. Le premier endroit où je me suis arrêté, à la périphérie de la ville, a refusé de m'accepter. Le réceptionniste du Red Top m'a expliqué que leur établissement était réservé aux Noirs et m'a dirigé vers le Southern Hospitality, qu'il a qualifié de meilleur de tout guff, pote. Peut-être bien, mais je pense que j'aurais nettement préféré séjourner au Red Top. La guitare slide que j'entendais par la porte du barbecue bar voisin avait un son fantastique. La Nouvelle-Orléans ne se trouvait pas exactement sur ma route vers la Grande D, Dallas. Mais avec l'alarme du sonar désormais silencieuse, je me suis senti l'âme touristique. Quoique ce n'était pas le vieux carré français, comme on appelle le centre historique, ni l'embarcadère pour le bateau à vapeur rue Bienville que je voulais visiter. J'ai acheté un plan de la ville à un vendeur de rue et cherché mon chemin vers la destination qui m'intéressait. J'ai garé ma voiture et après une petite marche de 5 minutes, me suis retrouvé en face du 4905 Magazine Street, où Lee et Marina Oswald vivraient avec leur fille June au cours du dernier printemps et du dernier été de la vie de John Kennedy. C'était une bicoque délabrée avec une clôture grillagée autour d'un jardin envahi d'herbe. La peinture du rez-de-chaussée, naguère blanche, était maintenant d'un jaune pisseux et pelait. Les planches brutes du premier étage, en vieux bois grisé, n'avaient jamais été peintes. Une fenêtre brisée avait été rafistolée avec un morceau de carton sur lequel on pouvait lire « Alloué », appelé MU3-4192. Des moustiquaires rouillés fermaient la galerie où, en septembre 1963, assis en caleçon à la nuit tombée, Lee Oswald chuchoterait « pan, pan, pan » dans sa barbe, en visant les passants dans l'obscurité avec ce qui deviendrait l'arme la plus célèbre de l'histoire américaine. Je pensais à ça quand quelqu'un me tapa sur l'épaule et je faillis hurler. J'ai dû sursauter car le jeune homme noir qui m'avait abordé recula respectueusement d'un pas en levant en l'air ses mains ouvertes. « Désolé, monsieur, désolé. Je voulais sûrement pas vous faire peur. »« C'est bon, » je lui ai dit. « Vous n'y êtes pour rien. » Cette déclaration ne sembla guère le rassurer, mais il avait un but précis en tête et il se hâta d'y venir. Quoique pour ce faire, il dut se rapprocher une nouvelle fois, car sa proposition nécessitait un ton de voix plus discret que celui de la conversation. Il voulait savoir si par hasard j'étais intéressé par l'achat de quelques joysticks. Il me semblait comprendre de quoi il parlait, mais je n'en fus tout à fait sûr que lorsqu'il ajouta « Herbe du Delta, monsieur ! Super qualité !» Je lui dis que je m'en dispenserais, mais que s'il pouvait m'indiquer un bon hôtel dans le Paris du Sud, l'information lui vaudrait $1,50 de ma part. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était nettement plus audible. « Tout dépend des goûts, mais je dirais l'hôtel Monteleone. » Il m'indiqua le chemin. Je l'ai remercié et gratifié du $0.50. Il l'a endormi dans l'une de ses nombreuses poches. « Dites, pourquoi que vous regardez cette baraque-là ?» Il hocha la tête vers la bicoque délabrée. « Comptez l'acheter ?» Une étincelle de l'ancien George Amberson se ralluma. « Vous, vous devez être de par ici. Ce serait une bonne affaire, à votre avis. Oh, d'autres bicoques de la rue, ouais, mais pas celle-ci. Pour moi, elle a l'air hantée. » « Pas encore, » j'ai corrigé. Et je me suis éloigné vers ma voiture, le laissant me suivre des yeux avec perplexité. J'ai récupéré le coffre-fort dans la malle arrière et l'ai posé sur le siège du passager de la Sunliner, dans l'intention de le porter moi-même jusqu'à ma chambre au Monteleone, ce que j'ai fait. Mais pendant que le portier s'occupait du reste de mes bagages, j'ai repéré quelque chose par terre à l'arrière, et je me suis empourpré d'une culpabilité instantanée, totalement hors de proportion avec la nature de l'objet. Mais ce que l'on apprend dans la petite enfance est ce qui reste le plus solidement ancré. Et parmi tout ce que j'avais appris au sein de ma mère, figurait en bonne place de toujours rapporter à temps les livres empruntés à la bibliothèque. C'était le rapport Chapman que j'avais emprunté à la bibliothèque de Nokomis environ une semaine avant de décider qu'il était temps de tailler la route. Je pris comme un reproche la vignette collée dans le coin supérieur de la couverture de protection transparente. Emprunt 7 jours seulement. Pensez aux emprunteurs suivants. Arrivé dans ma chambre, j'ai consulté ma montre et vu qu'il n'était que 18 heures. En été, la bibliothèque n'ouvrait pas avant midi, mais restait ouverte jusqu'à 20 heures. Les appels longue distance font partie des rares choses plus onéreuses en 1960 qu'en 2011. Mais ce puéril sentiment de culpabilité continuait à me tarauder. J'ai appelé la réceptionniste de l'hôtel et lui ai donné le numéro de téléphone de la bibliothèque de Nokomis que j'ai lu sur la pochette collée au dos de la dernière page du livre. En notant au passage le petit message figurant au-dessous, au-delà de 3 jours de retard, merci de prévenir par téléphone, je me suis senti plus minable que jamais. Mon opératrice a parlé à une autre opératrice. Derrière elle, je percevais un babil de voix plus faible. Je me suis avisé que dans le temps d'où je venais, la plupart de ces voix lointaines étaient mortes. Puis, une sonnerie a retenti à l'autre bout du fil.
« Bonjour, bibliothèque publique de Nokomis. »
C'était la voix de Hattie Wilkerson. Mais on aurait dit que la charmante vieille dame était coincée dans un tonneau en acier géant. « Bonjour, Madame Wilkerson. »«
Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Oh, fichu appel longue distance. »
« Hattie ! » Je criais maintenant. « Hattie ! C'est George Amberson à l'appareil !»«
George Amberson ! Oh mon Dieu ! D'où appelez-vous, George ?»
J'ai failli lui dire la vérité, mais l'alarme de mon radar a émis un seul bip très sonore et j'ai hurlé « Bâton rouge !»«
En Louisiane ?»«
Oui, j'ai un de vos livres, je viens de m'en apercevoir. Je vais vous le renvoyer le plus... » »«
Vous n'avez plus besoin de crier, George. La communication est bien meilleure maintenant. L'opératrice n'avait pas dû bien enfoncer l'affiche. Oh, je suis si contente de vous entendre. » C'est la providence divine que vous n'ayez pas été là. Nous nous sommes inquiétés, même si le chef des pompiers a affirmé que la maison était vide.
Qu'est-ce que vous racontez, Hattie ? Ma maison sur la plage ? Quelle autre, en vérité ?
Oui ! Quelqu'un a lancé une bouteille d'essence enflammée par la fenêtre. Tout a brûlé en l'espace de quelques minutes. Le chef du rang pense que ce sont des jeunes gens qui buvaient et faisaient la fête. Oh, il y a tellement de mauvais sujets de nos jours. Mon mari dit que c'est parce qu'ils ont peur de la bombe.
Eh bien.
George, vous êtes encore là ?
Oui.
Quel livre avez-vous ?
Quoi ?
Quel livre avez-vous ? Ne m'obligez pas à consulter le fichier.
Ah, le rapport Chapman.
Alors, renvoyez-le-nous dès que vous le pourrez, d'accord ? Nous avons quelques lecteurs en liste d'attente. Irwin Wallace est extrêmement populaire.
Oui, je m'en occupe dès demain.
Oh, je suis vraiment navré pour votre maison. Avez-vous perdu beaucoup de choses ?
Non, j'ai le plus important avec moi.
Dieu merci. Pensez-vous revenir bien ?
Il y eut un clic assez fort pour m'agresser l'oreille, puis la friture d'une ligne déconnectée. Je replaçai le récepteur sur sa fourche. Pensais-je revenir bientôt ? Je ne voyais pas la nécessité de rappeler pour répondre à cette question. Mais désormais, je serai doublement sur mes gardes avec le passé, car il flaire les agents de changement, et il mord. J'ai expédié le rapport Chapman à la bibliothèque de Nokomis tout à fait cessante le lendemain matin. Puis je suis parti pour Dallas. 3 jours plus tard, j'étais assis sur un banc de Daily Plaza et je regardais le cube de briques carrées de la Texas School Book Depository. C'était la fin de l'après-midi et il faisait incroyablement chaud. J'avais desserré ma cravate. Si vous n'en portez pas en 1960, même par temps chaud, vous risquez d'attirer inutilement l'attention sur vous et déboutonner le col de ma chemise blanche toute simple. Mais ça ne me soulageait pas beaucoup. Pas plus que l'ombre de l'orme située derrière mon banc. Quand j'étais descendu à l'hôtel Adolphus sur Commerce Street, on m'avait offert le choix entre une chambre avec air conditionné ou sans air conditionné. J'avais payé le supplément de $5 pour une chambre où la température était généreusement abaissée à 25 degrés. Et si j'avais eu un cerveau, j'y serais retourné sur l'instant avant d'attraper une insolation et de tomber dans les pommes. Avec la nuit, la température risquait de fraîchir un peu. Rien qu'un peu. Mais ce cube de brique retenait mon regard. Et les fenêtres, surtout celles à l'angle droit du cinquième étage, semblaient m'examiner. Il émanait de ce bâtiment une sensation palpable de faute. Vous trouverez peut-être ça risible si vous existez un jour et n'y verrez rien d'autre que la conséquence de mon savoir anticiper des événements. Mais cela ne suffit pas à expliquer ce qui me retenait vraiment sur ce banc, en dépit de la chaleur accablante. Ce qui me subjuguait, c'était une étrange impression de déjà-vu. L'immeuble me rappelait l'aciérie Kitchener de Derry. Le dépôt de livres scolaires n'était pas en ruine, mais il dégageait la même impression de menace vivante. Je me souvenais de ma rencontre avec cette cheminée écroulée, noire de suie, couchée dans les hautes herbes, tel un serpent préhistorique géant somnolant au soleil. Je me souvenais d'avoir plongé le regard dans sa bouche d'ombre, d'une circonférence si grande qu'elle aurait pu m'avaler. Et je me souvenais d'avoir eu le sentiment que quelque chose se trouvait à l'intérieur. Quelque chose de vivant. Quelque chose qui voulait m'y faire pénétrer à mon tour, afin de lui rendre visite. Peut-être pour un temps très, très long. « Entre !» susurrait la fenêtre du cinquième étage. « Viens jeter un coup d'œil aux alentours. L'endroit est désert à cette heure. La poignée d'employés qui travaillent ici en été sont rentrés chez eux. Mais si tu contournes le bâtiment pour rejoindre la plateforme de chargement près de la voie ferrée, tu trouveras une porte ouverte. J'en suis à peu près sûr. Après tout, qu'y a-t-il à protéger ici? Rien que des manuels scolaires. Et même les écoliers à qui ils sont destinés n'en veulent pas vraiment. Tu le sais bien, Jake. Alors entre, monte au cinquième étage. À ton époque, il y a un musée ici. Les gens viennent de partout dans le monde, et certains d'entre eux pleurent encore en repensant à l'homme qui a été assassiné et à tout ce qu'il aurait pu faire s'il avait vécu. Mais nous ne sommes qu'en 1960. Kennedy est encore sénateur, et Jake Epping n'existe pas. Seul George Amberson existe. Un homme à la coupe courte, à la chemise moite de sueur, à la cravate desserrée. Un homme de son temps, pour ainsi dire. Alors, monte. As-tu peur des fantômes? Comment peux-tu en avoir peur alors que le crime n'a pas encore été commis? Mais il y avait des fantômes là-haut. Il n'y en avait peut-être pas dans Magazine Street à la Nouvelle-Orléans, mais ici... Oh oui. Mais je n'aurais jamais à y faire face, car je ne pénétrerai pas davantage dans le dépôt de livres scolaires que je ne m'étais aventuré dans cette cheminée écroulée à Derry. Oswald y décrocherait son emploi de manutentionnaire à peine un mois avant l'assassinat, et pour moi, attendre aussi longtemps serait prendre un trop gros risque. Non, j'avais l'intention de suivre le plan que Hall avait ébauché sur la dernière partie de ses notes, celle intitulée « Conclusion sur la marche à suivre ». Quelle qu'ait été sa certitude quant à la théorie du tireur isolé, Hall n'avait pas négligé la possibilité, faible mais significative sur le plan statistique, qu'il pouvait se tromper. Dans ses notes, il l'avait appelé « la fenêtre d'incertitude », comme « fenêtre du cinquième étage ». Il s'était fixé pour but de fermer cette fenêtre pour de bon le 10 avril 1963, soit plus de 6 mois avant le voyage de Kennedy à Dallas. Et je pensais que son idée avait sa logique. Peut-être plus tard, au cours de ce mois d'avril, plus vraisemblablement le soir du 10, pourquoi attendre, j'éliminerais Lee Harvey Oswald comme j'avais éliminé Frank Dunning. et sans plus de scrupules. Si vous voyez une araignée cavaler sur le plancher en direction du berceau de votre bébé, vous pourriez hésiter. Vous pourriez même envisager de la piéger dans une bouteille et de la jeter dans le jardin pour qu'elle puisse continuer à vivre sa petite vie. Mais si vous étiez sûr que cette araignée est venimeuse, une veuve noire, dans ce cas, vous n'hésiteriez pas. Non, pas si vous êtes sain d'esprit. Vous poseriez le pied dessus et vous l'écraseriez.